Radio Foot International.
Olivier Pron.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans Radio Foot International. Période de creuse avant les joutes internationales de fin de semaine, mais gros sommaire quand même. Après la Liga hier, on débrief le début de saison anglais. 4 journées disputées en août en première ligue et déjà compliqué pour pas mal d'équipes de suivre le rythme d'enfer imprimé par le tandem Liverpool, Manchester City, United, Tottenham et Chelsea notamment sont déjà loin, très loin. Est-ce qu'il y a de bien dans ce début de saison anglais, plus souriant pour Leicester, Crystal Palace, Everton ou West Ham, c'est que l'on y découvre ou plutôt retrouve de jeunes Anglais, eh bien au point, en forme, bourré de talent, plein d'entrain. Du coup, on se dit que tout ça, c'est drôlement bien pour la sélection anglaise. Les Three Lions, comme on les appelle, demi-finalistes de la dernière Coupe du Monde, sur le pré, ce week-end dans la course à l'Euro. Et si l'heure de l'Angleterre avait sonné? Alors, qui dit Angleterre dans Radio Foot dit Salim Bongali, mais le mercredi, la piscine. Ou alors, il y a un autre talent de classe mondiale, Bruno Constant. On aurait mieux fait de dire à Salim Bongali de revenir, puisque Bruno Constant, lui, il a oublié de mettre de l'essence dans son scooter. On espère qu'il arrivera avant demain ou après-demain. Sinon, on le retrouvera pour la saison 2020-2021. Alors, puisqu'on en sera à parler de la course à l'Euro avec ou sans Bruno Constant, et bien direction l'équipe de France après l'Angleterre. Les Bleus sont de retour à Clairefontaine depuis lundi. Ils y préparent 2 rendez-vous au Stade de France. L'Albanie samedi soir, puis Andorre mardi. A priori, pas des foudres de guerre et donc pas de quoi effrayer les troupes de Didier Deschamps. Décimé, Pogba, Mbappé, Kanté, Ndombele, entre autres, sont blessés. L'occasion de tester Ikoné, le Lillois, et Guendouzi le Gunners, et d'en retrouver quelques autres suffisants pour se motiver à regarder ces deux matchs. Naïm Moniol, vous êtes là, toujours à l'heure.
Moi, je suis là parce que sinon vous me tapez, Olivier. Donc, vous êtes obligé de venir.
Il sera tapé, Constant. Ça,
ça va bien, et vous?
N'ayez crainte. On filmera ça, on mettra ça sur un Facebook Live. Hein. La punition de Bruno Constant, on va se régaler. Ouais. Sans habit. bonjour, en tout cas, Naïm. Merci d'être à l'heure.
Pas de souci.
Pour terminer, eh bien, on reparlera transfert, mais côté africain cette fois. Qui, où, comment et surtout pour combien? L'occasion de parler de Pépé à Arsenal, de Ganagay au PSG, d'Edouard Mendy à Rennes, de Bennacer au Milan AC, de son compatriote Slimani, buteur à Monaco. Ils sont là, nos amis du continent, dans la place, n'est-ce pas, Patrick Juillard?
Comme moi également.
Oh bah lui, il peut venir
bonjour
deux
Olivier.
Fois par jour, il est toujours à l'heure.
Et bonjour à tous.
Oui. Celle qui n'est plus dans la place, c'est la dame. 2 semaines déjà, et vous êtes nombreux, très nombreux, à vous interroger sur les réseaux sociaux. Où est-elle? Eh bien, elle réfléchit. Là, c'est comme ça. Après une proposition de Belote Magazine, qui lui demande d'animer des tournois régionaux le samedi soir, cette fois, elle a été approchée par Chat, mon ami, mon roi. L'offre est alléchante, elle prend son temps, on vous tient au courant, bien sûr. Mais vous n'êtes pas obligé de me croire.
Il m'a dit je t'aime beaucoup, etc. Mais voilà, faut que tu partes. Et j'ai dit, comment ça, faut que je parte? C'est-à-dire. Et après, il m'a dit, tu vas avec l'équipe de France A, etc. Et dans ma tête, j'y croyais pas au début. J'étais encore en train de dormir. 10 minutes avant, j'étais en train de dormir. Donc, je croyais que j'étais encore dans un rêve. Et après, le coach, voilà, il a bien discuté avec moi, il m'a bien expliqué. Et voilà, il m'a dit que j'allais avec l'équipe de France A. Donc, c'est un rêve. Et heureusement, je viens de me doucher pour bien que je prenne conscience des choses.
Après, t'es à m'endormir. Ça veut dire j'ai posé mes téléphones et c'est là où je vois l'appel de Mike Maignan. Et il commençait à crier au téléphone. Je comprenais pas au début. Il me disait, t'es pas au courant? Je lui dis non. Il m'a dit, t'as appelé en équipe de France A. En fait, j'y croyais pas. Donc je commence à fouiller les réseaux sociaux. C'est à partir de là que j'ai vu, c'était vraiment vrai en fait.
Par ordre d'apparition à l'antenne, Matteo Guendouzi et Jonathan Ikoné. Vous l'avez compris, on espère voir arriver Bruno Constant et donc on a décidé de parler de l'Angleterre un petit peu après. On attaque avec l'équipe de France, ces deux jeunes, Jonathan Ikoné, le Lillois, 21 ans, Matteo Guendouzi, le Gunners, 20 ans. On devrait les découvrir, on l'espère en tout cas, sous le maillot bleu, parce que l'Albanie Commander, il y a de quoi faire tourner l'effectif. Hein. C'est le sang frais de l'équipe de France qui va donc accueillir, je le rappelle, l'Albanie samedi et Andorre mardi, c'est plutôt bien.
C'est le sang frais, oui. Jonathan Ikoné, il doit surtout sa sélection à l'absence de Mbappé, hein, puisque je crois que c'est vraiment pour ça, pour le remplacer. Et voilà, de Dembélé, c'est un joueur qui a des qualités comparables, c'est un joueur rapide, c'est un joueur qui peut faire des grosses différences, qui peut rentrer dans l'axe et frapper, et qui a un bon sens du but. qui peut jouer en combinaison aussi. Donc c'est un joueur très intéressant qui a été un des artisans de, du sacre lillois, hein, quand même, enfin du sacre de la qualification.
Ouais, ils sont vice-champions, mais enfin.
On est tellement habitué à ce que le PSG
gagne. On sait en Ligue 1 que le PSG sera champion, donc finalement l'équipe qui est deuxième, elle voilà, est presque sacrée deuxième.
C'est ça, donc c'est pour ça que j'ai fait cette petite confusion.
C'est l'autre championnat.
Voilà. Et donc c'est très mérité. Guendouzi, lui, c'est un peu une entrée par la, non pas par la porte, mais par la fenêtre, puisqu'il n'était pas prévu et qu'on l'a rajouté suite à un forfait. Donc finalement, mais les deux méritent sur le début de saison. Ils sont sur la lancée d'une excellente dynamique. Et surtout, moi, ce que j'aime bien chez ces deux joueurs, c'est qu'ils sont très jeunes, mais ils ont déjà pris leurs responsabilités à la fois techniques et même humaines dans le groupe où ils évoluent. Et ce sont surtout des joueurs qui sont beaux à voir jouer, qui ont du charisme, qui ont de la gueule, comme on dit. On remarque, hein, quand on voit jouer un Guendouzi en Iconé, on le remarque. Il dégage quelque chose, donc tant mieux qu'il soit là.
Bah c'est du Deschamps new look, parce que Deschamps nous a surtout habitué à une époque à rappeler les anciens quand il y avait des absents, puis depuis quelques temps il a quand même ouvert aux plus jeunes, surtout à ceux qui viennent de l'équipe de France Espoir, qui sont du Serail, de la DTN et qui ont fait les équipes de jeunes, ce qui est le cas des deux dont on parle. Alors après, Guendouzi effectivement arrive un peu par la fenêtre parce qu'il y a pléthore de blessés, mais c'est quand même celui dont on attendait l'arrivée en équipe de France depuis un petit moment. Il fait une grosse saison l'année dernière à Arsenal, il gagne sa place, il a un style qui qu'aime Deschamps, c'est-à-dire c'est un gros volume de jeu, il récupère, il taxe, il fait pas tout bien, c'est pas le plus fin technique, mais c'est quand même celui qui a un volume de jeu et un abattage physique qui lui permet d'exister au haut niveau. Puis Iconé, qui a la particularité lui de pouvoir jouer aux deux postes, c'est-à-dire à la fois sur un côté et à la fois dans l'axe. Ça dit quand même beaucoup la polyvalence, parce que finalement un garçon comme Fekir, qui est quand même plus vraiment un titulaire, et puis un garçon comme Coman qui se blesse assez souvent et tout, ça permet quand même d'avoir une solution de rechange, un troisième couteau. Ça veut pas dire qu'il va pas revenir quand Dembélé et Mbappé vont revenir, ça veut juste dire que essayer ce genre de joueur pour avoir une cartouche supplémentaire, bah c'est un peu la nouvelle politique Deschamps. Et même s'il y a une défaite en Turquie, soyons francs Olivier, l'adversité du groupe permet aussi pendant 2 ans à Deschamps de pouvoir tester des jeunes, tester des systèmes, tester des solutions, parce que à la Moldavie, l'Andorre, l'Albanie et compagnie, c'est ça nous permet quand même de pouvoir se qualifier facilement normalement et en plus de travailler avec des nouvelles têtes.
On rappelle qu'en Turquie, c'était le non-match par excellence, peut-être le pire match de l'équipe de France depuis les années 2010.
De l'ère Deschamps.
N'exagérons pas, il y avait eu
clairement
le match
de l'ère Deschamps en tout cas.
Je pense que le match à domicile contre le Luxembourg avant la Coupe du Monde était pire quand même en termes de contenu, parce que la Turquie c'est d'un autre niveau comme adversité. Oui, il y a une défaite, c'est vrai. Le pire pour moi restera ce match abominable contre le Luxembourg à domicile.
On rappelle là quand même, hein, pas de Mbappé, pas de Pogba, pas de Kanté, pas de Ndombele, pas de Thauvin, pas des deux Mendy, pour ne citer qu'eux. On a vraiment de quoi faire tourner. Et pourtant dans le groupe, il y a des tas de gens qu'on connaît. Mais ceux-là vont avoir enfin du temps de jeu.
Ben, ça montre la taille du réservoir de cette équipe de France. Ça montre que il faut aussi souligner que les deux joueurs dont on a parlé, ce sont deux joueurs qui avaient été approchés par leur pays d'origine, le Maroc pour l'un, la RD Congo pour l'autre. Et les contacts étaient même allés assez loin pour Iconé, qui avait rencontré Ibengué avant la CAN 2019. Et donc c'est aussi une manière de les bloquer en quelque sorte, hein. Il faut voir aussi des choses de sous cet angle. Ça montre la qualité de la formation française et la qualité
Guendouzi, quelle origine
du marocain
hein, c'est ça.
Ça montre la qualité du réservoir en fait, c'est-à-dire qu'on a à tous les postes, on a des profils variés. Les seuls postes où on est un peu en difficulté, où on manque un peu de rechange, c'est les postes de latéraux, enfin les côtés défensifs. Mais sinon, et un peu les gardiens de but, il y a une petite interrogation sur les gardiens de but. Mais à tous les autres postes, on a pléthore de solutions et de joueurs de qualité.
Alors je vous propose d'écouter deux témoignages, un pour chacun de ces deux joueurs. Le premier, c'est de Gérard Lopez, le président du LOSC, qui se réjouit évidemment de voir ce jeune homme de 21 ans, Jonathan Iconé, rejoindre les Bleus.
Là, il prend un autre statut. Tous les joueurs qui sont appelés par Didier Deschamps, qui est quand même le coach champion du monde, sont des joueurs qui ont prouvé quelque chose. Maintenant, c'est une étape dans sa carrière. Il doit utiliser cette étape et continuer à progresser. Mais c'est vrai que c'est quelque chose de bien qui lui arrive. C'est un joueur qui même cet été a été très demandé, ouais, mais sur lequel on compte beaucoup.
C'est bien joué. Qu'est-ce que c'est bien joué de la part d'Iconé.
Un petit festival d'Iconé.
Ce qui nous amène à la question David Finzel du jour, car chaque jour il y a une question qui émane de David Finzel. Le plus dur c'est de rester en équipe de France et bien d'y arriver. Est-ce que ces jeunes-là, 21 ans on le dit hein, pour Iconé, 20 ans pour Guendouzi, rien n'arrive jamais trop tôt, mais quelle pression on a sur les épaules après ?
Ouais, Ikoné très dur. Ikoné, ça va être très dur parce que d'abord, il est dans un système de jeu où il y a énormément de concurrence. Et puis surtout, pour l'instant, Lille n'est pas un grand club. C'est pas un grand club européen. Ils ont un nouveau projet qui démarre pas mal. Il y a une Ligue des Champions, mais c'est pas ce qu'on appelle un grand club. Guendouzi, lui, je vous l'ai dit, il est déjà aux portes de l'équipe de France depuis l'année dernière. Il évolue dans peut-être le championnat le plus difficile du monde, dans une équipe qui joue le haut de tableau, en tout cas qui joue des Coupes d'Europe régulièrement. Il s'est imposé en plus dans ce genre d'équipe, dans ce championnat d'Angleterre. C'est une figure remarquée aujourd'hui en Première Ligue. Donc lui, il est peut-être amené à être là plus souvent. La pression est d'autant plus importante qu'il peut challenger ceux qui sont déjà en place. Pour Ikoné, ça sera très dur parce que vous avez Dembélé, vous avez Mbappé sur le côté. Selon les systèmes de jeu, vous pouvez vous retrouver avec Martial ou Lemar. Donc c'est-à-dire que Coman. Lui, c'est un, Coman, c'est un petit peu plus difficile. Mais pour Guendouzi, s'il fait pas l'idiot, s'il arrive à imposer son jeu de la manière dont il s'est imposé en club, lui, il a une vraie carte à jouer pour l'Euro 2020.
Eh ben Guendouzi, écoutons son entraîneur chez les Gunners, justement, Unai Emery, on l'a bien connu en France. Maintenant, il fait le bonheur ou pas, selon les avis des supporters de l'équipe d'Arsenal. On l'écoute parler de Guendouzi.
Il est très jeune, mais il ne cesse de progresser. Cette saison, il a franchi un cap. Tactiquement, il nous donne plus de contrôle avec le ballon. Il est en train de devenir la clé pour bien combiner au milieu de terrain. Il travaille aussi pour avoir plus d'équilibre défensivement. Il muscle son corps, ce qui est important pour jouer et évoluer en Angleterre. Il est très exigeant envers lui-même et je vais l'aider à devenir encore meilleur.
Allez, à Guendouzi de casser les lignes là par des passes, par des bons ballons, par des excellents ballons. Le caviar made in France, signé Matteo Guendouzi.
Et on en reparlera tout à l'heure, c'était le match de dimanche. Arsenal face à Tottenham, 2-2, c'était une passe décisive. Il a tout pour réussir, ce garçon-là.
Il a tout pour réussir, et Unai Emery dit quelque chose de vrai, c'est qu'il a vraiment progressé. C'est un peu le discours qu'on entend habituellement sur les jeunes. Mais lui, pour le coup, c'est vrai, parce que l'année dernière, quasiment à la même époque, d'abord, il n'est pas titulaire, puis il fait quand même beaucoup d'erreurs. Il perd des ballons dans des zones difficiles, et Arsenal a perdu des points à cause de lui. Mais il s'est accroché, il a travaillé, il a vraiment progressé, il s'est amélioré. Si vous regardez aujourd'hui Guendouzi, c'est un garçon qui a replacé Torreira, ce qui était quand même pas gagné vu le talent de l'autre, qui a plus ou moins mis Chaka sur le banc et qui aujourd'hui trimballe un peu ses Bayos d'un côté ou de l'autre, parce qu'on l'a vu rentrer sur un côté quand il était remplaçant, quand il vient au milieu il est pas toujours à son poste. Donc c'est un garçon qui a tellement pris d'envergure au milieu de terrain que les joueurs qui est autour et qui étaient peut-être au départ plus indispensables que lui, ils ont fait un petit peu les frais de son ascension. Donc ça, c'est aussi à mettre à son crédit à Guendouzi.
Moi je trouve aussi qu'il a du mérite puisqu'il est passé directement de Lorient à la Première Ligue. Il n'a pas fait l'étape intermédiaire d'un club du haut de tableau de Ligue 1, par exemple. Mmh. Et donc, c'est une ascension un petit peu hors des sentiers habituels, hors des sentiers battus. Il en est à l'étape qu'aurait pu faire Guendouzi en ce moment, s'il était passé de Lorient à Lyon ou à Marseille ou à un club du haut de tableau de Ligue 1. Donc, c'est d'autant plus intéressant, ça montre que c'est quelqu'un qui a du caractère, qui croit en lui, qui est habité par une grande confiance en lui. Ikoné, lui, c'est quelqu'un qui est un peu sorti d'une grosse concurrence des jeunes de l'Île-de-France avec toute la génération des Augustin, des Nkunku, bon, pas au même poste, mais c'était un peu cette génération-là. Oui. C'était un joueur qui sort du centre de formation du PSG et qui est d'ailleurs de Bondy comme Mbappé.
Il était même entraîné par le père. On en a parlé la semaine dernière. Il était entraîné par le père de Mbappé dans cette émission. Voilà. Dans la foulée de la liste, Didier Deschamps a annoncé cette liste, Ikoné en était, contrairement à Guendouzi qui lui est là. On le rappelle parce que Pogba a déclaré forfait lundi. Et c'est vrai, c'est marrant, cette filière est Bondy entraîné par le père de Kylian Mbappé.
Les deux, en fait, ont du mérite, mais pas pour les mêmes raisons. Ikoné, parce qu'il a réussi à se distinguer au milieu d'une myriade de joueurs hyper doués dans sa classe d'âge. Et Guendouzi, parce qu'il est passé directement de Lorient à la Première Ligue. Il faut du cran pour ça. Je veux dire, on dit, oui, les jeunes joueurs, ils sont pressés de partir pour l'argent et tout, mais c'est aussi, lui, il est un peu passé en dessous des radars.
Faut un sacré mental, hein.
C'était pas quelqu'un annoncé comme un crack, surtout comme Dembélé ou
surtout
Mbappé.
Surtout que Guendouzi, il a même été placardisé par Mickaël Landreau, Ligue 2.
Oui.
C'est que Landreau, alors aujourd'hui, il va peut-être changer son fusil d'épaule quand on voit sa trajectoire au joueur, mais à une époque, Landreau, quand on lui disait Guendouzi, il dit non, il n'y arrivera pas, il est trop tête de mule.
Il était jaloux de ses cheveux, en fait.
18 mois plus tard,
oui,
il est à Arsenal, il est en équipe de France.
il a même, enfin, alors, ça veut pas dire qu'en club il est très agréable, mais quand on voit, vous avez écouté, entendu tout à l'heure un extrait dans ce mix entre Ikoné et Guendouzi. Guendouzi, c'est rigolo, il est dans une voiture, on l'amène de là où sont les espoirs à Clairefontaine, là où sont les A, et il y a ce, il est filmé par la Fédération française de foot. Il est d'une fraîcheur, c'est tellement agréable. Alors, certains diront, bah oui, mais c'est normal, il a 20 ans. On connaît des tas de joueurs de foot qui, à 20 ans, ont déjà un boulard comac. Là, il est vraiment, vraiment frais. On sent que c'est le bonheur intégral, quoi, le rêve, et qu'il a envie d'en profiter.
Mais vous vous rendez compte, vous passez en 18 mois d'un banc de touche en Ligue 2 à l'équipe de France. Vous vous rendez compte l'ascension de ce joueur, la vitesse. Alors ça peut être à double tranchant. Si dans 6 mois il a pris le boulard et que ça se retourne, ça peut être très violent. Mais rendez-vous compte en 1 an et demi la trajectoire que vous avez. Et puis après c'est aussi à la personnalité du garçon. Il trimballe ça aussi avec lui. Vous écoutez Lacazette, vous écoutez Aubameyang. Je me rappelle en fin de saison dernière, au moment de la finale de Ligue Europa, dans les conférences de presse, ils en parlaient justement. Lacazette, Aubameyang, de Guendouzi, ils vont disaient, bah il a toujours la pêche, il est toujours de bonne humeur. C'est un très bon mec. Au-delà du bon joueur, c'est aussi un très bon mec. Donc quand les deux vont ensemble, généralement c'est pas mal.
On s'excuse auprès de nos amis marocains. Voilà un qui n'auront pas, vraisemblablement. Bah à moins qu'il ne joue pas là, mais on a du mal à croire qu'il ne joue pas au moins de quelques minutes.
En tout cas, je pense que lui a un vrai avenir et que Deschamps ne l'a pas pris juste pour le bloquer.
Ah oui, lui,
comme
pour
au contraire de ce qu'avait fait l'Espagne avec Mounir El Haddadi, où c'était évident qu'il avait été appelé juste pour être bloqué et pour pas qu'il aille jouer pour le Maroc. Et aujourd'hui, le garçon est triste, finalement, d'avoir été appelé aussi jeune pour peut-être ne plus jamais être appelé de
Mounir
de sa
en Espagne,
vie, quoi.
Ouais,
ça va être très difficile.
Donc,
on espère que, et moi je suis bien confiant, vu les qualités du joueur et vu cette personnalité un peu tranchée, bien affirmée déjà, ça, ce côté, comme vous l'avez dit, très frais, je pense que ça peut l'aider à garder la tête froide et à pas trop cramer les étapes, quoi.
Albanie, Andorre, on l'a dit, dans ce groupe-là, à part la Turquie, enfin ouais. Maintenant que les Bleus vont recevoir et qui avait fait un faux pas, on rappelle que l'équipe de France est en tête dans ce groupe, hein, à 3 équipes à 9 points en fait. Hein. 9 points pour les Bleus, 3 victoires, 1 défaite. 9 points pour la Turquie, 3 victoires, 1 défaite. 9 points pour l'Islande, 3 victoires, 1 défaite. Derrière, c'est déjà loin. Les Bleus qui avaient perdu en Turquie 2-0, qui avaient battu l'Islande 4-0, gagné en Moldavie 4-1, battu l'Andorre en Andorre 4-0, voilà, on devrait voir tous ces joueurs-là, on va pas forcément se régaler, c'est pas les affiches qui nous font le plus saliver ce week-end, ça reste quand même des matchs de champion du monde face à un adversaire.
Ouais, faut faire attention au bloc bas albanais qui peut être difficile à manier, on l'avait vu à l'Euro où ils avaient été coriaces, il y a quelques joueurs de qualité comme Elieg Isaac, le joueur de Naples, qui est toujours là ou qui est parti.
Je crois qu'il est toujours là. Mais...
Et donc voilà, mais Andorre, la seule question, c'est à quelle minute sera marqué le premier but. Et si on se pose d'autres questions avec Andorre, c'est qu'on a raté le match.
Au-delà, c'est vrai, de l'adversité qui est très faible, hein, je l'ai dit, je le répète.
Le match aller avait été déjà à sens unique en Andorre, 4-0, on voit mal comment là.
Ce genre de match, c'est typiquement, vous avez la moitié d'une équipe type qui est absente, comment se comportent les remplaçants, comment se comportent les nouveaux, est-ce qu'il va changer de système, qu'est-ce qu'on a comme plan B, comme cartouche, si jamais un mois avant l'Euro, on a 2 joueurs qui se pètent, voilà. Ce genre de match, qui a priori ne sont pas spectaculaires ou pas, il y a pas beaucoup de suspense, il sert à
un sélectionneur.
Et je le répète vraiment, sur les 2 années qu'on a entre l'Euro et la Coupe du Monde, ce groupe nous permet ça. Et c'est une chance, parce que dans d'autres groupes, ou parfois même le groupe de l'équipe de France permettait pas ça, on n'avait pas vraiment de marge de manœuvre. Sur les 2 ans qu'on a entre les 2 compétitions, on a ça, profitons-en.
Dernière question pour l'équipe de France, parce qu'on a beaucoup parlé transfert, on va en parler dans quelques secondes. Après le titre de champion du monde, l'été 2018, deux Bleus seulement avaient changé de club. Un an plus tard, cet été, là, l'été qui vient de se terminer, lors de ce mercato d'été, 12 joueurs parmi les troupes de Didier Deschamps ont décidé de changer de club. À quelques mois de l'Euro, certains ont sans doute pris de gros risques. On a vu, on va citer Griezmann, évidemment, parti au Barça. Pogba, lui, est resté. Je vais retrouver mes
Pavard
fiches.
Pavard est parti au Bayern.
Pavard et Hernandez sont partis au Bayern. Ouais. Là, il va falloir du temps de jeu. Comment s'appelle-t-il? Ndombele à Tottenham.
Ndombele à Tottenham, ouais.
Ferland Mendy au Real Madrid.
D'abord, il faut regarder on a un réservoir de jeunes. c'est surtout ça en fait, c'est qu'on a beaucoup de jeunes. Alors les jeunes, la première année, ils restent dans leur club formateur ou dans les clubs de transition, mais rapidement, avec le marché d'aujourd'hui et les prix qui sont offerts, ils partent tous très vite. Ça aussi, si les joueurs avaient 5-6 ans de plus en moyenne, peut-être qu'ils auraient pas fait le même choix, premièrement. Puis deuxièmement, on a quand même pléthore de talents. Aujourd'hui, les gros clubs viennent chercher les joueurs français, comme c'était le cas fin de 90.
Et c'est marrant que ce soit 2000. Cet été et pas
l'année dernière. Mais l'année d'avant, ils sont rentrés combien de temps après la compétition, ouais, ouais. Tu vois, la fenêtre de mercato et la fenêtre des négociations était quand même pas la même.
Ouais. Surtout aussi. Que le marché anglais ferme son mercato au début du championnat, c'est-à-dire début août.
Ça va pas durer, sans doute.
Ce qui empêche les années de Coupe du Monde, il y a très peu de temps pour négocier, faire les rencontres nécessaires. Et donc, les transferts ont été un peu préparés en amont. Dombélé, ça a été préparé l'été dernier, ça s'est concrétisé cet été. C'est un exemple.
De toute façon, voilà, Deschamps, quand les joueurs sont en période de compétition, qui sont dans leur camp de base, leur machin, Deschamps interdit toute négociation entre le club et les joueurs. Ça, c'est clair et net. Ça peut se faire à l'extérieur entre l'agent et le club, mais le joueur n'intervient jamais, il n'a pas le droit.
Enfin, donc à vérifier, mais il y a une part de risque. On va pas quand même occulter Areola qui part
oui, mais au Real. Areola, il n'est pas numéro 1, Areola.
Il n'est pas numéro 1, mais vois, il risque d'être numéro 8.
Mais tu vois, par exemple, clairement, un joueur comme Griezmann, même s'il a changé de club, qu'il arrive dans un club avec d'autres exigences, une autre concurrence, il n'est pas en danger par rapport à l'équipe de France.
Giroud,
qui était troisième attaquant à Chelsea la saison dernière, et continue à être pris. Deschamps, il s'attache beaucoup aux joueurs, à la notion de groupe, à ceux qui étaient là et ceux qui changent de club et qui parfois n'ont pas la garantie.
À condition de jouer quand même.
Voilà. De temps de jeu ou en tout cas moins. Ils savent que s'ils brillent en bleu et s'ils ont la bonne relation avec Deschamps, ils seront appelés. Giroud, on est le parfait exemple.
Allez! On en reste là pour l'équipe de France. Je regarde au loin, Anne Masuran ne voit-tu rien venir. Toujours pas de Bruno Constant. Il a peut-être troqué, je sais pas, le scooter sans essence pour la trottinette sans électricité. Pédale, on sait jamais, tu finiras par arriver. Allez, on va passer à... Eh ben, on va parler transfert encore justement, mais côté africain cette fois. Je sais pas vous, mais moi je suis la patronne de RFI, Cécile Mégy, on la salue si elle est à l'écoute. Je m'intéresse à Laurent Salerno pour être le programmateur musical de cette radio, parce que franchement, ça s'appelle comment ? Faudra que vous nous le disiez dans les oreilles, monsieur Salerno, parce que Opposite People, des peuples opposés donc, des gens opposés, ça marche bien en tout cas pour cette musique, pour introduire cette partie. Donc, on a beaucoup parlé transfert ces derniers jours, notamment hier sur l'antenne avec Christophe Jousset, et puis on s'est dit, tiens, ça vaut le coup quand même de refaire un petit point sur tous nos amis africains, parce qu'il y en a eu des transferts. Forcément, Nicolas Pépé, 80 millions d'euros à Arsenal, ça claque. Après un mois de compétition, une canne ratée, mais ça, on savait que ce serait compliqué pour lui de découvrir un peu cette compétition. Là, que dire sur ce premier mois à Arsenal de Nicolas Pépé ?
Intéressant, beaucoup d'activités, de plus en plus. Il est même titulaire dans des gros matchs. Pour l'instant, il n'y a pas l'efficacité qui va avec, mais dans ce qu'il apporte, dans l'activité, dans la manière de faire jouer les autres, et aussi dans ce que les autres ont l'air de penser de lui et les supporters, c'est plutôt encourageant. Mais en même temps, quand vous passez de la Ligue 1 et de Lille à Arsenal et la Première Ligue, il y a forcément un petit fossé, une petite période à laquelle il faut s'adapter. Lui, là, il s'adapte. Et moi, je trouve qu'il s'adapte plutôt bien et c'est très encourageant.
Ouais, je partage l'avis de Naïm. Je trouve que déjà dans ses gestes, dans ses initiatives, dans ses prises de balle, il a déjà ce qu'il faut pour réussir en Première Ligue, c'est-à-dire ce démarrage, cette vitesse. Et je trouve que globalement, évidemment, c'est encore à parfaire et c'est aussi à Unai Emery de trouver son schéma préférentiel et son 11 type. Mais dans ce qu'on voit dans les échanges, dans la relation technique qui s'instaure avec Aubameyang et Lacazette, on voit déjà que les garçons parlent à peu près le même football, oui. Et donc que ça va donner quelque chose d'intéressant. Je suis pas inquiet, il fera peut-être pas autant des stats aussi extraordinaires que la saison dernière, évidemment, mais je suis pas inquiet, il va s'adapter, c'est un garçon de talent, il a la tête bien posée sur les épaules, il est bien conseillé, donc il n'y a pas de problème, je suis pas inquiet.
Entouré par Lacazette, on parlait de Guendouzi, par Aubameyang, par des joueurs francophones qui connaissent la Ligue 1, qui connaissent le foot français, ça n'arrive
pas
à lui
être bénéfique,
il arrive pas, un peu comme Wilfried Zaha en équipe de Côte d'Ivoire, si vous voulez qu'on fasse un parallèle, où personne ne parle le même football que lui par exemple. C'est quand même pas la même chose.
Dans les autres transferts, avant de passer aux champions d'Afrique, les vice-champions d'Afrique, Galagay au PSG, ça faisait quelques mois qu'on l'attendait, ça s'est finalisé, blessés. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Il part pour être titulaire, d'après toutes les compositions d'équipe que l'on voit là à venir. C'est une bonne recrue, c'est une belle opération
pour
lui.
Ça fait 6 mois que Thomas Tuchel pleure en conférence de presse qu'il a pas de numéro 6. Si le jour il en a un vrai et de bon niveau, il le met sur le banc. Là, on va plus le comprendre, notre ami allemand. Donc oui, il part pour être numéro 6 parce que d'abord, c'est le vrai spécialiste du poste, parce qu'il est bon. Et moi, je trouve que c'est pas uniquement le joueur qui est là pour cavaler au volume de jeu, courir à la place d'autres. Je trouve qu'il a, il a des qualités de ballon qui sont sous-estimées. En tout cas, quand j'en entends parler dans la presse française, et moi, j'ai hâte de le voir jouer les gros matchs, le match contre le Real de Madrid, justement, en Ligue des Champions, pour qu'il monte sa patte. Moi, j'ai confiance en lui.
C'est quelqu'un qui peut tenir la barre. C'est quelqu'un qui est pas seulement un, ce qu'on appelle un casseur de jeu en Afrique pour ce poste-là. C'est quelqu'un qui a aussi une bonne qualité de passe, qui sait alterner jeu court, jeu long. Enfin, qui joue juste, qui joue sobre, hein, c'est pas le joueur le plus spectaculaire, mais qui est aussi capable parfois de se porter en zone offensive et de marquer des buts. Donc
pas oublier que
c'est vraiment intéressant.
Et puis avec le Sénégal, il joue aussi plus haut que numéro 6. Hein,
voilà,
il joue
plus
aussi utilisé en relayeur, qui a des vraies qualités de ballon, qui peut porter la balle.
Édouard Mendy, le Sénégalais, a lui quitté Reims. On va regretter déjà Reims, enfin c'est comme ça. Pour Rennes,
le remplaçant n'a pas l'air mal. Hein.
Ah ouais. Ouais, ça démarre pas mal la saison rémoise, fidèle à eux-mêmes. Ils sont 10 derrière et un devant, mais ça marche pas mal. Édouard Mendy, il franchit un palier. Rennes, voilà un club qui peut faire une grosse saison, qui a déjà fait une belle saison dernière et qui monte en puissance.
Oui, Rennes travaille bien. Rennes s'est mis à bien travailler. Rennes a trouvé l'entraîneur qu'il lui fallait, quelqu'un qui a des idées claires, qui sait s'adapter au schéma de son adversaire sans renoncer à ses propres principes, donc tout ça c'est très bien. Et il arrive dans cette équipe, il fait faire un saut qualitatif, je pense au Stade Rennais à ce poste, puisque je le trouve supérieur à Koubek par exemple, ou à Abdoulaye Diallo, son compatriote, qui est quand même un gardien moins sûr et moins qui s'impose moins dans sa surface que lui, donc c'est tout bénef et pour lui et pour le Stade Rennais.
Et puis il faut pas oublier que d'abord Rennes va avoir une exposition supérieure avec la Coupe d'Europe, que c'est aujourd'hui un club qui s'affirme de plus en plus dans le premier tiers du championnat et qui en plus de ça vend bien justement en période de mercato. Donc si d'aventure il fait une grosse saison, il peut même prétendre aller voir au-dessus, parce que je trouve que niveau mercato, niveau vente, niveau business comme on dit, bah regardez Smail Assar, regardez Ben Sebeni, rien n'empêche Edouard Mendy de pouvoir regarder un petit peu l'étage au-dessus s'il fait une grosse saison.
Du côté des champions d'Afrique, le meilleur joueur de la CAN, Ismaël Benacer, est lui parti au Milan AC.
Ça c'est un transfert qui avait été négocié avant la CAN, c'est-à-dire que Benacer avait brillé de mille feux avec Empoli dans un poste de meneur de jeu reculé un peu à la Pirlo toute la saison dernière. Empoli qui avait un milieu de terrain 100% africain d'ailleurs, on s'en rappelle, avec Ahmed Traoré également et Afrié Akwa. Et voilà, il a conclu ce transfert avant la CAN. Peut-être que si ça n'avait pas été le cas, il aurait pu prétendre à un club encore meilleur que l'AC Milan.
Mais moi je suis plus mesuré que sur les joueurs dont vous avez parlé avant, parce que pas sur ses qualités à lui ou sa faculté de s'adapter à un club, parce qu'en plus il connaît très bien l'Italie avec Empoli, mais il y a quand même une chose à dire, c'est que sur les dernières années, Milan a quand même l'habitude de flinguer les joueurs, de flinguer ses recrues, de flinguer ses milieux de terrain. Regardez Bakayoko, regardez Kessier. Je ne parle que d'eux, je pourrais en parler d'autres, et pas forcément ses milieux.
C'est pas les pires encore.
Moi, je trouve que Benacer, avec ses qualités, il aurait pu prétendre à un autre club, peut-être moins prestigieux historiquement, mais qui, dans le présent, en tout cas, apporte plus de garanties. Parce que Milan, ça repart un peu à l'aveuglette, un peu à tous les postes, un peu au niveau entraîneur, un peu au niveau direction. On sait pas qui sera là pour combien de temps. J'ai un peu peur que, malheureusement, il fasse les frais de la mauvaise gestion du club. Je ne lui souhaite pas, il a des grosses qualités. Mais sa saison à Milan, moi, j'annonce pas comme étant un succès.
Je rappelle que le meilleur joueur de l'avant-dernière CAN, Bassogog, était lui parti en Chine.
Pareil, mais la marque, en fait, Milan AC est devenue plus belle que l'équipe elle-même. Donc, je pense qu'il pouvait prétendre à mieux. Ah, oui. Encore une fois, le transfert avait déjà été pratiquement conclu avant la Coupe d'Afrique. C'est-à-dire, ils l'ont pas recruté pour sa CAN, ils l'ont recruté pour la saison en Serie A.
Islam Slimani, autre champion d'Afrique, à Monaco, ça marche pas mal, 3 buts en 2 matchs.
Ouais, il a déjà réussi sa saison, on va dire. saison qu'attend Monaco.
On espère qu'il va continuer à marquer, on espère pour Monaco et pour lui.
Ouais, non, mais il est à la relance. Un peu comme le club, vous me direz, il est à la relance. Il arrive un peu là. Moi, ça m'a surpris de voir Slimani arriver à Monaco. Très clairement, je pensais pas que le club allait recruter ce genre d'attaquant. Donc voilà, j'attends de voir. Il a marqué 3 buts en 2 matchs, je rigole, mais c'est déjà pas mal, 3 buts en 2 matchs. J'annonce pas pour autant une saison extraordinaire de l'international algérien.
Moi, je suis surpris par son état de forme, parce que je sais qu'il reste sur une saison très difficile au Fenerbahçe. Et là, je trouve qu'il est vraiment saignant, il est vraiment en forme, il répète les efforts, il cavale dans tous les sens. Donc Et il est assez précis, enfin il a un bon taux de réussite pour l'instant face au but, alors que c'est parfois quelqu'un qui a un peu de déchets, donc ça part très bien. La complicité qu'il va avoir avec Ben Yedder, puisqu'on sait que Jardim est plutôt un adepte d'un 4-4-2, est importante, et je pense que les deux sont assez complémentaires. On dit souvent que dans un 4-4-2, il faut un grand costaud et un petit technique, et là... Pour le problème, c'est que je trouve que c'est assez, ça fonctionne pas mal dans l'idée.
Chez vous, à Nice, Ounas, Boudaoui, pas mal. Et ça fonctionne pas mal le début de saison d'ailleurs de Nice.
C'est la connexion algérienne de l'OGC Nice. Oui, ça fonctionne pas mal. Avant que les recrues n'arrivent, Nice a gagné 3 matchs sur les 4 premiers. D'ailleurs, faut rappeler qu'aucune équipe maintenant n'est invaincue. Toutes ont perdu au moins un match sur les 4 premières journées. Donc c'est dire si ça part pas sur des bases élevées. Mais Nice a bien tiré son épingle du jeu et ça promet, puisque Ounas n'a joué que les 20 dernières minutes du match à Rennes, où il a déjà pu faire admirer sa vision et sa qualité de passe. Donc ça promet. Il y a maintenant trois jeunes Algériens à Nice, deux issus du Paradou AC, donc Atal et Boudaoui. Bon, Atal qui est un peu issu de la JS Kabylie aussi, et Adam Ounas, donc intéressant. Le côté droit va être, avec Atal et Ounas, ça peut être un côté droit vraiment de champion d'Afrique, c'est de bon augure.
Et pour le coup, la pression, elle est un peu sur les épaules de Patrick Vieira, parce que il a mine de rien maintenant un beau petit effectif avec des joueurs techniques, rapides, qui savent jouer au ballon. Si dans la saison, on voit une équipe dégueulasse qui joue à 10 derrière, on saura sur qui taper.
Alors, on peut aussi, évoquer, enfin, en tout cas, citer Ismaïla Sarr, parti de Rennes pour Watford, Mbaye Ndiaye, poussé vers la sortie à Galatasaray, avec l'arrivée de Falcao qui rentre en Belgique et qui va jouer la Ligue des Champions.
Il est prêté avec une option d'achat.
Bruges, ce qui est pas mal. Le retour d'Aurélien Chedjou. Amiens. On avait perdu de vue. Et qui rentre à Amiens. Le globe-trotter ivoirien, Sédou Doumbia. 44 clubs en 5 ans, à peu près. Sédou Doumbia.
Il retourne en Suisse.
Oui.
Et Fousseni Diabaté, international U23 malien, qui s'est engagé avec Amiens en provenance de Leicester.
Et puis on a aussi le Togolais, Floyd Haïté, qui prend la direction de la Turquie. Juste un mot chacun. Beau marché d'été pour les Africains. Ils ont animé. On a eu de gros transferts. On a plein de choses qui sont très prometteuses pour la saison.
Bizarrement, l'année où on a la CAN l'été, curieusement, donc avec une exposition supérieure, avec une compétition qui n'a pas été d'un grand niveau technique, mais où les joueurs auront pu au moins être vus par l'ensemble de la population et pas uniquement au milieu de la saison quant à tous les championnats qui sont en cours, donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Il y a une belle hype algérienne, Nicolas Pépé qui fait partie des plus gros transferts de la saison, non, c'est très correct pour le foot africain.
Ouais, alors l'effet CAN, bon, c'est pas, comme on l'a vu pour Ben Acer, je pense que les transferts sont pas dus uniquement à la CAN, mais il a pu jouer pour le Nigeria qui a été troisième. Beaucoup de joueurs ont été transférés, dont Onyekuru, Moses Simon à Nantes aussi, faut le rappeler. Donc, un petit effet. Je pense que globalement, oui, c'est un bon mercato pour les joueurs africains qui ont pour beaucoup trouvé preneur, alors qu'ils, pour ceux qui cherchaient en tout cas, sauf Wanyama qui est resté sur les bras de Tottenham alors que il aurait pu faire l'affaire à l'OM par exemple.
Alors on va terminer la page africaine avant de passer à l'Angleterre car oui, il est arrivé. Il n'a pas trouvé d'essence car il n'a pas d'argent. Il a trouvé une mobilette qu'il a dû voler en passant. Bruno Constant, bonjour.
Bonjour Olivier. Désolé pour ce retard.
Oui, mais c'est pas grave.
Le chemin est long entre l'Angleterre et Paris.
Juste un mot au sujet de l'Afrique. Savez-vous qu'aujourd'hui ont débuté les éliminatoires pour la Coupe du Monde 2022?
Oui. C'est le tour préliminaire.
Ça commence le 21 novembre 2022, mais en Afrique, on s'y prend longtemps à l'avance. C'est mieux, des fois, que qu'on tombe en panne de scooter et qu'on arrive en retard au match. Alors, 14 matchs aller-retour d'aujourd'hui à mardi prochain, avant la phase de poule à partir de mars 2020, et les barrages en 2021, parce qu'il n'y a toujours que 5 places. Hein. Ça ne changera qu'à partir de 2026. 3 matchs déjà joués, Burundi, Tanzanie, 1-1, 2 buts dans les dernières minutes. Allez voir l'égalisation tanzanienne, ça vaut son pesant de cacahuètes dans le genre mauvaise communication. Entre le gardien et son défenseur, un régal à Bujumbura. Éthiopie, Lesotho 0-0, Érythrée, Namibie, victoire des Namibiens 2-1 en Érythrée. Il y aura plein d'autres matchs, tellement d'autres matchs que Christophe Jousset sans doute vous en parlera aussi demain. Allez, un petit jingle Première Ligue.
L'UEFA Men's Player of the Year is Virgil van Dijk.
Tottenham scores for Harry Kane. Pierre-Emerick Aubameyang with 20 minutes remaining.
And Sergio Aguero, and what a start for City.
Mane, 2-0.
This is incredible.
Alors pour me venger du retard de Bruno Constant, non, je ne vous dirai pas que c'est son anniversaire aujourd'hui. Je ne vous dirai pas qu'il est né le même jour donc que Lilian Lasland. Bernard Casoni, Levin Kurzawa. Vous êtes plus proche en âge de Bernard Casoni, nous on est en 61.
J'aurais préféré Lilian Lassonde quand même.
Allez, bon anniversaire quand même. On vous a trouvé une petite Marilyn. Je sais pas si vous le méritez, mais enfin allez, rattrapez-vous sur les 15 dernières minutes de l'émission. Mais messieurs, vous restez avec nous, hein, les deux qui m'ont soutenu depuis le début.
De toute façon, moi je coupe la parole.
Liverpool City sur les chapeaux de roue. On peut dire, vous êtes d'accord avec ça? Surtout Liverpool. 4 matchs, 4 victoires. Boum, boum, boum. 12 buts marqués, 3 encaissés.
Ouais, on voulait voir si en ce début de saison, un peu le paysage de la saison passée allait se répéter ou pas. C'est-à-dire que si Manchester City et Liverpool allaient être clairement au-dessus. Ou si Tottenham, voire Arsenal, avec un beau recrutement, un recrutement plutôt séduisant, allait pouvoir peut-être se glisser ou s'immiscer dans cette course au titre. Et en fait, non, ça a clarifié très vite ce qu'était ce championnat 2019-2020. C'est-à-dire que Liverpool et City sont vraiment une classe au-dessus des autres. Et que Tottenham, malgré un recrutement pour la première fois depuis un an et demi, et qu'Arsenal, malgré quelques bons renforts, notamment avec Nicolas Pepe qui fait beaucoup rêver Arsenal, bah, il y a encore une marche, voire deux marches d'écart entre ces équipes-là, et que des équipes comme Chelsea et Manchester United ont promis quelques difficultés, l'interdiction de recrutement de Chelsea et une reconstruction à United qui se fait en lessive, en grande lessive estivale, où on essaie d'écarter un maximum de joueurs qui donnaient pas satisfaction, bah, il risque d'être encore un cran en dessous. Donc, j'ai l'impression qu'après, voilà, 4 journées, on sait déjà à quoi s'attendre. Même si voilà, on espère surprise de Tottenham ou d'Arsenal, mais Liverpool et City ont une telle marge d'écart par rapport à leurs adversaires, c'est assez
Liverpool 12 points, City 10, Arsenal est 5e à 5 longueurs, ouais. Manchester United est 8e à déjà 7 longueurs de Liverpool, Tottenham au même niveau, 9e, Chelsea 11e, mais on savait qu'avec pour Lampard ça allait être compliqué, mais 11e, pareil à ouais. 7 points déjà de Liverpool. Finalement, on retrouve des équipes. Il y a le retour de Leicester, il y a la surprise Crystal Palace, il y a Everton, il y a West Ham. Alors ça n'est que le début de saison, mais c'est vrai que quand on regarde autant les deux premiers, bon, on se dit c'est la même chose depuis quelques saisons.
Mine de rien, quand tu regardes Everton, je m'amuse à regarder ça ce week-end. C'est une équipe qui a prolongé sa politique de prendre les joueurs qui ne réussissent pas dans les gros clubs. Ils ont 3 anciens Barcelonais, ils ont Keane qui vient de la Juve. Ils ont récupéré qui d'autre encore? Ils ont Iwobi qui vient d'Arsenal. Enfin, ils ont une équipe qui est clairement compétitive, Everton. Alors, c'est pas du niveau de ce qu'on voit tout en haut, Liverpool, City, évidemment. Mais c'est une équipe qui joue pas mal. Et puis, quand vous regardez Leicester, on peut critiquer la manière dont Brendan Rodgers est arrivé, ce qu'il a fait en Écosse. Bon, voilà, on peut critiquer tout ça. Mais son équipe, elle est cohérente. C'est vraiment, ça joue pas mal au foot avec des jeunes. C'est vraiment, il y a un football plaisant. Ça veut pas dire que sur 38 journées, tu vas pas retrouver à la 38e les 4 ou 5
qu'on connaît. C'était le sens de ma question à Bruno, justement. Là, on s'amuse, c'est vrai, 4 journées seulement, c'est le mois d'août, il y a eu des changements.
Oui, parce que...
Est-ce qu'on peut espérer avoir une ou deux surprises ou finalement, dans 2-3 mois, on va se retrouver avec un top 5 comme d'hab?
Ce qui est frappant pour moi, c'est un peu la continuité du mercato. C'est paradoxalement les équipes qui ont le moins touché à leur effectif sont celles qui sont les mieux placées puisque elles avaient déjà trouvé la meilleure carburation, c'est City et Liverpool. Les deux, Liverpool a pratiquement pris personne de notable, si je me trompe pas. Et City, ils ont pris Cancelo et
Rodrigo
voilà, qui apporte des plus, mais qui sont pas d'emblée considérés comme des titulaires. Et par ailleurs, bon, Chelsea était empêchée de recrutement, donc c'est en général une des équipes les plus dépensières, elle n'a pas pu dépenser.
Surtout qu'elle a perdu son meilleur joueur.
On voit que finalement, aucune star mondiale n'est arrivée en Première Ligue cet été.
Elles sont même parties.
Certaines sont parties, mais aucune n'est arrivée, bon, parce que Pepe, c'est pas une star mondiale, c'est un bon joueur d'un bon championnat.
Ça n'est pas encore.
C'était le prix Marc-Vivien Foé, donc c'est le meilleur joueur africain de Ligue 1. C'est une star mondiale potentielle, mais il n'y a pas eu d'arrivée de star mondiale. Donc peut-être que parmi les arrivées de cet été se cache le futur Mohamed Salah ou le futur Sadio Mané. Mais pour l'instant, on a atteint un palier, je pense, en termes de dépenses. Donc il est logique qu'on reste globalement sur les positions de la saison dernière.
Après, je pense que le fait que le mercato était décalé ou avancé en Angleterre par rapport aux autres, ça, je pense que l'Angleterre y a perdu. Même si c'était une bonne idée, ils y ont perdu en termes d'achat, parce que on sait que les gros transferts se déroulent plutôt en fin de mercato. Après, pour ce qui est du classement, de ce qu'on voit des forces vives,
la question c'est est-ce qu'on peut espérer voir une surprise durer un peu?
C'est compliqué.
Est-ce que Leicester, Crystal Palace, Everton, West Ham sont on la caisse pour.
Mais
pour
on a des surprises. On en a eu jusqu'à Noël ou un peu avant Noël avec Burnley, avec Watford les années précédentes, avec Leicester qui avait été la grosse surprise jusqu'au bout. Après, sur les saisons précédentes, on sait que Tottenham, souvent, ils ont du mal au mois d'août, qu'Arsenal a tendance à rater ses débuts de saison. Donc, il n'y a pas de grosse surprise. Chelsea, on sait qu'il y a une énorme reconstruction avec beaucoup de jeunes qui sont insufflés par Frank Lampard. Et je pense que si on lui donne du temps, les Tammy Abraham, les Mason Mount, qui sont très intéressants, je pense que Chelsea va revenir et finira au moins dans le top 6, ce qui est déjà bien pour les conditions.
Un truc, tu me dis ce que t'en penses, c'est que moi, je suis quand même très surpris de voir comment Chelsea s'arsenalise, c'est-à-dire qu'ils ont un secteur offensif qui est de très bonne qualité, même s'ils ont perdu Hazard, même s'ils ont pas recruté, je trouve que devant, ça a quand même vraiment de la gueule. Par contre, plus tu recules sur le terrain, plus c'est fragile. Et derrière, faire une saison, toute une saison avec cette défense-là, et là, tu peux inclure Zouma et compagnie. Il y en a pas un qui rattrape l'autre là-dedans. Je trouve que pour Chelsea, la vraie difficulté, ça va être derrière. Ils peuvent pas faire 38 journées avec une défense comme ça et prétendre être sur le Big Four. C'est pas possible.
C'est pour ça que le départ de David Luiz a choqué tout le monde. Parce que même, on peut penser ce qu'on veut
d'aller chez le voisin pour 9 millions. Voilà, tu vois, ils nous ont appris à faire mieux, quoi. En termes de business, Chelsea, à une époque, c'était pas mal quand même.
Du côté de Liverpool, Salah, Mané, Firmino, on est reparti sur les mêmes bases. Pourtant, Salah a joué la canne. Évidemment, ça a duré moins longtemps que pour Sadio Mané. Mané a quand même été au bout, il revient plein de bourre.
Ouais.
Ça ne fait qu'exacerber tous ceux qui rêvent de le voir sur les listes du moment pour les récompenses individuelles. Reste le Ballon d'Or, on peut croiser les doigts pour le voir au moins dans le top 5, si ce n'est dans le top 3. Ouais. Enfin, on se met à douter de tout. Cet homme fait une saison quand même extrêmement complète.
Ouais, c'est ça surprend tout le monde, ça choque même.
Il
un
est
peu.
Déjà revenu à son.
Ça choque même en Angleterre, parce qu'en Angleterre, il est considéré comme l'un des deux ou trois meilleurs joueurs d'Angleterre, assez nettement. Ce qui est intéressant à suivre sur Liverpool, c'est que déjà il y a le retour au premier plan de Firmino, qui était la saison passée, qui a raté les 6 derniers mois, c'était très compliqué avec des blessures musculaires. Que pour moi, Salah, qui n'était pas dans une grande saison la saison passée, alors qu'il finit comme meilleur buteur, je trouve qu'il est revenu avec une grinta qui est assez intéressante. Le seul problème, c'est qu'on l'a vu le dernier match, j'ai l'impression qu'entre Salah et Mané, il y a une petite concurrence qui est en train de se lancer, et que sur le dernier match, ils sont accrochés, où Salah, plusieurs fois, a été joué avec des œillères, et plutôt que de passer le ballon à Mané, qui était en meilleure position, il a voulu la jouer solo. Et Mané, quand il a été remplacé par Klopp, il a pété une colère sur le bord de la touche, je n'ai jamais vu Sadio Mané comme ça. Et il avait vraiment le regard de quelqu'un qui en a marre d'être un peu au second plan, de pas être considéré à sa juste valeur. Klopp a dit que ça s'était très vite retombé après dans le vestiaire, mais il faudra suivre ça parce que, voilà, pour l'instant, tout marchait très bien à Liverpool parce que les trois s'entendaient bien. Mais peut-être aussi que ça peut arriver qu'à un moment donné, il y a un problème entre les trois, quoi. Donc,
À City, on a un Agüero en feu. Alors, lui, Dieu sait si, il est souvent blessé. Alors, forcément, quand il est blessé, bah, il joue pas, mais quand il joue. Qu'est-ce que ça claque?
Ça reste
le début de saison, 6 buts, là. Hein,
ouais, ça reste un super joueur, ça reste un super attaquant. Peut parfois sous-estimer, parfois à juste titre, parce que dans les grands matchs de Ligue des Champions, moi je trouve qu'il a tendance à disparaître, comme en sélection d'ailleurs, où il n'a pas vraiment réussi à s'imposer.
C'est pas le seul chez les ténors argentins qui disparaît en sélection.
C'est l'avantage en sélection argentine, c'est qu'il n'est pas le seul. Mais effectivement, et après voilà, sur le papier, City a juste la meilleure équipe, et chaque année j'ai l'impression qu'ils mettent le curseur encore un peu plus haut, et puis surtout là il y a pour moi une recrue dont on n'a pas parlé, c'est Kevin De Bruyne, qui était totalement quasiment absent la saison passée, qui est revenu à une forme étincelante. À chaque match, je trouve qu'il apporte dans sa qualité de passe, dans sa justesse technique, des trucs extraordinaires. Et puis un David Silva qui est en train sans doute de faire sa dernière saison à City, qui est juste magnifique. Et j'ai l'impression que c'est le dernier tour du roi avant de tirer sa révérence. Mais malgré la blessure de Sadio Mané, le pouvoir offensif, potentiel offensif énorme, la seule bémol, et ça c'est très inquiétant, c'est la blessure d'Emeric Laporte. On a appris qu'il serait au moins absent jusqu'à début janvier. Et on sait qu'à City, ils ont perdu Vincent Kompany, capitaine, défenseur central. John Stones revient de blessure. Ils ont que Otamendi et Stones comme vrais défenseurs centraux de métier. Et derrière, il va falloir soit faire reculer Fernandinho ou bricoler avec Zinchenko qui compense déjà côté gauche alors que c'est un milieu de terrain avec les blessures de Benjamin Mendy. Donc c'est là où il y a quand même une petite faiblesse à City où ça peut, s'il y a encore une blessure dans ce secteur-là, ça risque d'être très compliqué.
Est-ce qu'il est possible qu'ils prennent un joker médical?
Il pourrait, mais je pense qu'ils vont
trouver
ils vont attendre janvier, j'imagine. Mais
vous l'avez évoqué tout à l'heure, on va en reparler pendant les dernières minutes de cette émission. Les jeunes, je regarde la liste des buteurs, hein, Sterling 5 buts, Abraham, on en a parlé, Chelsea 4 buts, Mason Mount de Chelsea 2, Rashford 2. Je ne vous cite que quelques-uns des jeunes joueurs qui brillent dans cette saison de Première Ligue, qui confirment, ou pour certains que l'on découvre. Alors ces succès, ces jeunes qui se révèlent ou qui confirment, ça donne des idées de ça, non?
It's coming home. It's coming home. It's coming home. It's coming home. It's coming home.
cette chanson, on l'a entendue, tous ceux qui étaient en Russie notamment, ou ailleurs, qui suivaient la Coupe du Monde en 2018.
Vous savez qui la chante ?
Oui, oui, bien sûr.
The Lightning Seed.
Exactement, elle est emballante, elle donne, comme disait David Finzel tout à l'heure, qui s'y connaît en pub, elle donne envie d'aller en siffler quelques-unes dans les pubs anglais, ou ailleurs d'ailleurs, c'est dans vrai. N'importe quel pub. C'est vrai qu'elle est entraînante, cette chanson, comme c'est de la pop comme seuls les Anglais sont capables d'en faire. C'est pour ça qu'on avait tant aimé les Jeux de 2012, tiens aussi, parce que c'était des jeux musicaux. Bref, vous l'avez compris, c'était la chanson emballante pour les Anglais en 2018, parce qu'ils sont allés en demi-finale de la Coupe du Monde, et pourtant, les Three Lions, comme on les appelait en 2018, bon, c'était un peu le demi-finaliste du pauvre. Ils nous avaient pas vraiment emballés, nous avaient même ennuyés. Huitième de finale contre la Colombie au tir au but, quart de finale contre la Suède, waouh, quelle horreur, et puis éliminés en demi-finale par les Croates. Ils étaient de retour dans le dernier carré depuis bien longtemps, mais on pouvait encore avoir des doutes. Là, cette génération, je regardais Bruno Constant, grâce à Ralph, notre stagiaire, qui est là à nos côtés, Joe Gomez, 22 ans, Ben Chilwell, 22 ans, Trent Alexander-Arnold, 20 ans, Declan Rice, 20 ans, Harry Winks de Tottenham, 23 ans, Madison, 22 ans de Leicester, Mason Mount, dont on parlait, 20 ans,
Sancho.
Même Jadon Sancho de Dortmund, 19 ans, Marcus Rashford, 21 ans. Il y a quand même plus qu'un frémissement. Demi-finaliste de la Coupe du Monde, c'était presque... Mais ça a été de l'expérience pour ceux qui étaient là. Là, on est 2 ans plus tard. La Coupe du Monde, ce sera 2029. Il y a l'Euro en 2020. Ils jouent en Bulgarie. Les Anglais, ils ont gagné 5-0 et 5-1 lors de premiers matchs en République tchèque et face au Monténégro, ou inversement, face à la République tchèque et au Monténégro. Bref, tout va bien. C'est plein d'espoir.
C'est plein d'espoir et c'était prévu en fait. Quand avant l'objectif, faut savoir que l'objectif, la demi-finale de l'Angleterre à la Coupe du Monde, ça a été une énorme surprise parce que c'était pas du tout dans le plan de marche de Gareth Southgate. La fédération anglaise et Southgate ont fait un plan quand il a repris l'équipe d'être prête à les 2020 pour l'Euro parce qu'il y a le dernier carré qui se déroule en Angleterre
à Londres.
Et surtout 2022, la Coupe du Monde 2022. Et ils sont en train de récolter les fruits de leur formation et des équipes de jeunes qui ont brillé, qui ont récolté des titres dans les différentes catégories, championne du monde ou championne d'Europe. Et là, c'est en train d'arriver, de rentrer dans cette sélection. Et notamment, le meilleur symbole pour moi, c'est Jadon Sancho, qui est juste exceptionnel à Dortmund, qui en deux ans.
Un Anglais qui joue en dehors de l'Angleterre.
Il y en a de plus en plus. Il y a Kevin Trippier qui est parti à l'Atlético Madrid pour justement essayer de connaître un peu une culture autre.
Monde, oui.
Et ça, c'est le souhait de Gareth Southgate d'aller connaître d'autres footballs pour s'enrichir et apporter quelque chose à la sélection.
Puis, je suis d'accord. Et cette hybridation un peu du foot anglais avec d'autres footballs, elle est aussi provoquée par tous les entraîneurs étrangers qui entraînent en première ligue et qui apportent d'autres cultures de jeu, d'autres idées de jeu à des joueurs qui ont été par ailleurs formés localement. Donc c'est très intéressant. Le petit bémol que j'ai, moi je trouve tous les joueurs que vous avez cités, je suis d'accord, je les trouve extraordinaires et
prometteurs.
À peu près aussi bons en termes d'avancement de carrière au même âge que les jeunes joueurs français dont on a parlé précédemment. Mais il manque quand même, je pense, des joueurs vraiment dans le cœur du jeu, en milieu de terrain. Puisqu'on sait que tous les grands clubs anglais, pour la plupart, ont plutôt des joueurs étrangers à ces postes-là. Et là, il n'y a pas, pour moi, dans ce que vous avez cité, il n'y a pas de joueur de niveau de Gerrard ou Lampard.
Il n'y a pas de grand
pour l'instant.
Non, mais alors c'est marrant de prendre l'exemple de Gerrard et Lampard, parce que Gerrard et Lampard en sélection en équipe d'Angleterre, ça a été un échec total.
Oui,
ils n'ont jamais réussi à les associer. Et c'est surtout l'erreur que veut plus faire Gareth Southgate et la fédération anglaise, c'est de faire émerger des jeunes talents, mais à des postes précis. L'Angleterre a failli d'avoir un vrai numéro 6, une vraie sentinelle devant la défense. Là, ils en ont une qui est en train de se former, qui s'appelle Declan Rice, qui joue à West Ham, dont Pep Guardiola, dit le plus grand bien. Je pense que c'est un joueur qui finira à City peut-être la saison prochaine. Ils ont vraiment des joueurs, moi je trouve hyper intéressant.
Aaron Wan-Bissaka d'ailleurs, qui est forfait, on l'a pris aujourd'hui.
Wan-Bissaka, ils ont, ne serait-ce que sur le côté droit de la défense.
Il y a 4 joueurs exceptionnels. Il y a Walker, Trippier, Wan-Bissaka. Et j'en oublie. Et
Alexander Arnold.
Et c'est Liverpool, Manchester City, Walker, qui a 28 ans aujourd'hui, il est presque trop âgé pour cette équipe d'Angleterre, il a été laissé
donc
sur le côté.
On peut vraiment croiser les doigts pour ces Anglais, ils ont peut-être là une génération qui peut ramener l'équipe d'Angleterre très très haut. Merci messieurs. Radio Foot, c'est fini pour aujourd'hui. Quant à la dame, évidemment, chat, mon ami, mon roi, ça n'existe pas d'ailleurs, ne lui a pas fait de proposition, hein, les inquiets. Elle est juste en vacances et elle a bien raison. Retour lundi, c'est promis, d'ici là, jeudi, vendredi, c'est Christophe Jousset et c'est bien aussi.